Seigneur, nous voulons nous ouvrir à ta vieille parole annonçant la bonne nouvelle et dispose nos cœurs à la recevoir. Bénis René Monod aussi lorsqu'il nous servira pour l'expliquer et nous rejoindre.
Amen. Bonjour à chacune et à chacun. Nous voici donc au quatrième dimanche de l'Avent. Et nous allons méditer sur le cantique de Zacharie, qui, je trouve, s'inscrit bien dans la suite des messages entendus ces derniers dimanches, bien que cet épisode ne soit pas tout proche de la naissance de Jésus. Alors nous allons commencer par lire le texte, et pour cela j'ai demandé l'aide de Noémie Weber. Merci Noémie de venir. Alors, elle va dire tout. Si on peut projeter le premier dia, voilà. Oui, tu peux commencer.
Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en temps de ces termes : Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération.
Pas si vite.
Et il nous a suscité une force de salut. Dans la famille de David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et il s'est rappelé de son alliance sainte, le serment qu'il a fait à Abraham, son père. Il nous accordait après nous avoir arrachés aux mains de nos ennemis. Et il lui rend sans crainte notre culte dans la pitié de la justice, sous le regard de tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant sous le regard du Seigneur. Pour préparer les routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix.
Merci. Merci beaucoup. J'aimerais faire quelques remarques préliminaires avant de situer ce texte dans son contexte et puis de l'examiner de plus près. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que les récits à propos de Noël sont très déconsidérés dans notre société aujourd'hui. Au mieux, on dira que ce sont des récits pour les enfants, pas plus crédibles que l'histoire du petit chaperon rouge ou de la belle au bois dormant. En effet, ces récits où interviennent des anges et des naissances miraculeuses sont indignes de nous, gens modernes et adultes. C'est surprenant, en fait, parce que, parallèlement, on voit beaucoup de nos concitoyens de plus en plus crédules à propos de toutes sortes de théories abracadabrantes qui alimentent un marché florissant. Des croyances animistes refleurissent. L'influence des astres, celle de telle ou telle pierre que l'on met sous son oreiller pour bénéficier des ondes positives. On ne sait pas ce qui ondule, mais enfin, on met ça, des ondes positives qu'elles émettraient, etc. Et j'ai même entendu l'autre jour à la télé un excellent truc pour gagner à coup sûr au loto. Vous frottez très fort votre carton avec un gros oignon. Et ça marche, paraît-il. Il y a un homme du Nouveau Testament que j'aimerais bien rencontrer pour le connaître un peu. Parce qu'il est très discret et on ne sait presque rien de lui. Mais en fait, cet homme a eu une influence et un ministère remarquable. Il s'agit de Luc, l'évangéliste, médecin et compagnon de l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires. Et il est l'auteur de deux textes majeurs du Nouveau Testament, l'Évangile qui porte son nom et les Actes des Apôtres. Et il a fait partie de l'équipe missionnaire de Paul. Combien d'années, on ne le sait pas. Et figurez-vous qu'il y a seulement trois petites mentions de son nom dans les épîtres de Paul. Deux où Luc salue les destinataires de la lettre. Dans Colossiens 4, par exemple, Paul dit « Luc, le médecin bien-aimé ». Et puis une autre où Paul, âgé et abandonné en prison, dans 2 Timothée 4, verset 11, Paul dit « Luc seul est avec moi ». Luc est donc un homme dévoué et fidèle, et peut-être qu'il ressemblait à cette icône russe du XVe siècle. Un visage paisible, profond, accueillant. Alors qu'a voulu faire Luc en écrivant son évangile ? Les intentions d'un auteur sont toujours intéressantes. Et en l'occurrence, elles éclairent le texte qui nous est proposé ce matin, comme d'ailleurs tout l'évangile. Et lisons, pour le savoir, l'introduction à son évangile. Dans Luc, chapitre 1, versets 1 à 4, Luc dit « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. » Luc a donc fait un grand travail de recherche sur la vie de Jésus et les événements en particulier qui ont entouré la naissance du Sauveur. Il faut bien figurer que ça ne devait pas être facile puisqu'il se situait au moins une cinquantaine d'années avant que Luc rédige son évangile. Il a donc collectionné des sources et tous les témoignages, comme il le dit, des témoins oculaires. Et il a certainement dû effectuer un tri difficile entre ce qui était vérifié et confirmé et ce qui était secondaire ou d'authenticité douteuse. Et notez le sérieux de sa démarche qui est souligné en gras dans cette introduction. Il mentionne que c'est des événements qui se sont accomplis, qu'ils ont été transmis par des témoins oculaires qui ont vu les événements, donc, et puis lui s'est soigneusement informé de tout pour constater la solidité des enseignements reçus. Donc le but premier de Luc, dans ce gros travail, c'est d'enseigner le plus solidement possible le destinataire de son écrit, qui est un certain Théophile, dont on ne sait rien par ailleurs. Et l'Église primitive a reconnu que son récit était fiable, et l'Église primitive l'a inclus dans le canon des Saintes Écritures. Théophile, ça veut dire « qui aime Dieu ». Et Luc lui écrit pour qu'il aime Dieu encore plus. Et tout comme Théophile, Dieu veut nous enseigner pour que nous aimions Dieu encore plus. Alors pardonnez-moi cette longue introduction à propos de Luc. C'était pour nous encourager à prendre très au sérieux ces textes du début de l'Évangile, parce qu'ils contiennent une telle bonne nouvelle qu'ils nous rejoignent tous dans notre vécu. Bien sûr que certains aspects échappent à notre rationalisme primaire, mais on doit se rappeler, je crois, que les premiers chrétiens qui ont reconnu l'autorité de ces textes et l'authenticité de leur message comme venant de Dieu n'étaient pas plus sots que nous, parce qu'ils auraient eu de la peine à l'être. Il y a deux lignes de force qui traversent ces récits du début de Luc. D'abord, le fait que l'Évangile n'apparaît pas tout à coup, comme par hasard, au milieu de rien du tout, tombé du ciel ou par une révélation faite à une seule personne, Mahomet ou Bouddha, par exemple. Non, il s'inscrit dans l'histoire d'un peuple. Sa venue a été longuement préparée et elle appartient à l'histoire de tous les hommes. Puisqu'on l'a lu, au temps d'Hérode le Grand. La deuxième ligne de force, c'est le fait que c'est Dieu qui a toute initiative. L'Évangile s'inscrit dans l'Ancienne Alliance, dans la piété de l'Israël fidèle à Dieu. Et tous les noms des intervenants donnent d'ailleurs gloire à Dieu, parce que Zacharie signifie « Dieu se souvient », Élisabeth, promesse de Dieu, et Jean, Dieu fait grâce. Zacharie est un prêtre âgé qui a été désigné pour offrir le sacrifice et pour intercéder dans le lieu saint du temple pour demander le salut du peuple d'Israël. Et à sa grande surprise, un ange lui apparaît à côté de l'autel. Debout à la droite de l'autel, un ange du Seigneur apparut. À sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. » Il ne boira ni vin ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. » Zacharie priait dans son office pour le salut de son peuple. Et l'ange lui dit : « Ta prière a été exaucée. » Et c'est par un enfant dont il va être le père que ce salut débute. Zacharie a bien de la peine à croire ce qui lui est annoncé. On peut bien le comprendre. Il demande à l'ange comment il va pouvoir croire. Pour souligner son message, l'ange dit son nom, Gabriel. Ça veut dire envoyé de Dieu. Zacharie devait connaître son existence de Gabriel, parce que dans le prophète Daniel, Gabriel apparaît comme l'annonciateur du temps du salut. À quoi, Zacharie dit à l'ange, à quoi le saurais-je ? Car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit : Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompagneront en leur temps. Donc, en plus du nom de Gabriel, Zacharie reçoit le signe du mutisme. Chaque fois qu'il essaye de parler, ça ne va pas. Mais c'est parce que Dieu agit. Dieu lui fait signe ainsi. Par son mutisme, Dieu l'aide à croire. En langage psy moderne, cela s'appelle le lâcher prise. Le grand âge de Zacharie et d'Élisabeth, plus en âge d'enfanter, tout comme la virginité de Marie, exprime le fait que le salut vient exclusivement de Dieu. Aucune prétention humaine n'y a place. Peut-être que Zacharie et Élisabeth ressemblaient à ce vieux couple qui s'aime. Ne sont-ils pas mignons ? Élisabeth devint enceinte 6 mois plus tard. L'ange Gabriel poursuit sa mission et apparaît à une parente d'Élisabeth, Marie, qui va elle aussi devenir enceinte. Vous connaissez bien ce récit. Pour Élisabeth, arriva le temps où elle devait accoucher et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait comblée de sa bonté et ils se réjouissaient avec elle. Or, le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant et ils voulaient l'appeler, comme son père, Zacharie. Alors sa mère prit la parole. « Non, dit-elle, il s'appellera Jean. » Ils lui dirent « Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. » Et il faisait des signes au père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Il demanda une tablette et écrivit ces mots. Son nom est Jean. Tous furent étonnés. À l'instant, sa bouche et sa langue furent libérées et il parlait, bénissant Dieu. À la naissance de Jean-Baptiste, il y a là le petit bébé Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie. Jean est son nom. Alors Zacharie éclate de joie et se met à prophétiser ce psaume magnifique qu'on a lu tout à l'heure, rempli de l'Esprit Saint. Et il faut remarquer que ce psaume est remarquablement rédigé. Vous n'arrivez pas à lire, certainement, mais c'est fait pour. C'est parce que j'ai voulu qu'il soit tout sur la même diapositive, simplement que, en rouge, j'ai marqué le texte qui donne gloire à Dieu, en vert, le salut comme accomplissement des promesses, en bleu, le but du salut, et en violet, la vocation de Jean. Alors, vous voyez qu'il y a deux passages, rouge, vert et bleu, et puis à la fin, rouge, vert et bleu. Il est remarquablement rédigé, et au centre apparaît ce qui est dit de la vocation de Jean. On va reprendre cela. Zacharie discerne que le salut est à la porte. Il se base sur la déclaration qu'il a reçue de l'ange Gabriel et aussi sur ce qu'il a appris de Marie, qui, au début de sa grossesse, leur a rendu visite dans leur domicile, dans les montagnes de Judée. Elle leur a raconté avoir eu aussi la visite de l'ange Gabriel, qui lui a raconté qu'elle allait mettre au monde le Sauveur. Le cantique de Zacharie résume donc tout ce plan du salut. Et au milieu du texte, le but du salut, rendre culte à Dieu sans crainte, dans la piété et la justice, sous son regard, tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération. et susciter une force de salut dans la famille de David, son serviteur. C'est un tout petit bébé qu'il a dans les bras. Et il dit, Dieu a accompli sa libération. Il ne dit pas, Dieu accomplira sa libération. Dans la foi, il peut dire, Dieu a déjà accompli sa libération. Le bébé n'est pas le libérateur, mais il annonce une force de salut dans la maison de David. C'est bien du Messie qu'il s'agit. Zacharie ne mentionne pas le nom de Jésus, dont le nom signifie « Dieu sauve ». Son nom n'est pas mentionné car il naîtra 6 mois plus tard. Et à la fin du psaume, Zacharie parle encore de la venue du Messie d'une autre manière. Il parle de l'astre du levant venu d'en haut. Le Messie est donc comme le soleil qui vient éclairer ceux qui, sans lui, sont dans la nuit. Zacharie discerne que la promesse faite il y a bien longtemps à Abraham et rappelée par les prophètes trouve son accomplissement grâce à la fidélité de Dieu. Il cite la promesse faite à Abraham, « En toi, Abraham, seront bénies toutes les familles de la terre. C'est cela qui s'accomplit maintenant. » C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé de son alliance sainte et le serment qu'il a fait à Abraham, notre père. Il nous accorderait, après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte, dans la piété et la justice, sous son regard, tout au long de nos jours. Tel est le but. Comme une bénédiction prophétique, la vocation de Jean est annoncée par son vieux père au milieu de ce cantique. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Zacharie reprend certains éléments que l'ange Gabriel lui avait transmis, et qu'on retrouve ici. Gabriel lui dit, « Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson fermentée, il sera rempli du Saint-Esprit, il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur Dieu. Il formera pour le Seigneur un peuple préparé. » Il faut conclure. L'immense joie de Zacharie est une immense joie pour nous aussi, ce matin, parce que le libérateur est venu à Noël et a maintenant tout accompli. Le pain et le vin sur la table nous le rappellent. C'est un peuple que Dieu a libéré. Libéré des ennemis, c'est-à-dire libéré de tout ce qui entrave ce but que le Seigneur, que le salut de Dieu apporte, lui rendre sans crainte un culte dans la piété et la justice tout au long de nos jours. Ce culte-là, ce n'est pas seulement une célébration régulière éventuellement, mais c'est toute la vie dans la piété et la justice tout au long de nos jours. Ce peuple, ça n'est pas un ensemble d'individus qui vivent chacune et chacun comme s'ils étaient seuls et indépendants. C'est un peuple en route, sur le chemin de la paix. Il n'est donc pas replié en ghetto sur lui-même, non. Il est porteur du pardon de Dieu. Il est porteur de la paix qu'il donne et qu'il destine à toutes les familles de la terre. Alors, qu'être au service de son immense projet nous remplisse tous de joie. Et joyeux Noël. Amen.